Laurent, d'autres questions consulaires ont réouvert. Donc aujourd'hui, les services sont ouverts. On peut faire donc les demandes de passeport, de carte d'identité, mais c'est sur prise de rendez-vous.
Alors non, on ne peut pas encore faire les nouvelles demandes. On peut aller récupérer
des
documents correspondant à des demandes qui étaient déjà faites. Donc, si vous savez que vous avez à récupérer une carte d'identité ou un passeport, vous pouvez prendre rendez-vous pour cela. Aujourd'hui, on ne vous donnera pas encore de rendez-vous pour des dépôts de documents, c'est-à-dire des nouveaux passeports ou nouvelles cartes d'identité. On va vous recevoir pour donc retrait des documents, toutes les questions sociales, bien entendu, dont l'ambassade s'est beaucoup occupée pendant toute cette période, et puis des cas d'urgence avérés. Okay, mais pour renouveler votre passeport ou pièce d'identité, pour l'instant, on ne vous donnera pas encore de rendez-vous.
Ok. Donc là, maintenant, je pense qu'on a à peu près traité. Déjà, on a parlé de pas mal de choses. Maintenant, il y a un autre sujet, je crois, qui est un sujet important. C'est l'école.
Absolument. Alors, il y a un choix qui a été fait à Porto, qui est de ne pas réouvrir première et terminale. Ce choix, il a été fait dans le contexte où, au moment où il a été fait, il y a une quinzaine de jours, la situation sanitaire à Porto était plus préoccupante qu'à Lisbonne. Un petit peu plus tard et dans une situation sanitaire donc moins préoccupante, on a pris la décision la semaine dernière et en accord bien entendu avec toutes les composantes du conseil d'établissement, donc il y a les conseillers consulaires, mais il y a surtout évidemment les représentants des parents d'élèves, des professeurs, de la direction et des élèves, on a pris la décision de réouvrir pour les premières et pour les terminales le lycée français de Lisbonne, donc à partir de ce matin. On va aussi réouvrir les maternelles, en principe, la décision n'est pas totalement officielle, mais c'est l'orientation, on va aussi ouvrir les maternelles à Porto, comme à Lisbonne, à partir en principe du 1er juin, en suivant effectivement ce que le Portugal fera. Donc on va avoir nos lycées français au Portugal à fonctionner, un petit peu pendant le mois de juin. Alors les autres niveaux, en gros, on sait qu'on ne réouvrira pas. C'est-à-dire que sur le lycée, sur les primaires, on ne va pas effectivement réouvrir nos lycées. Alors, il y a une nécessité fondamentale de soutien aux familles dans ce contexte-là. Beaucoup de familles ont des difficultés économiques liées au Covid. On a énormément de familles françaises qui sont dans les métiers du tourisme, et qui sont directement impactés, évidemment, par cette situation. Alors, je voudrais expliquer rapidement les dispositifs de soutien tels qu'ils existent et sur lesquels, effectivement, nous essayons de travailler. Donc, aujourd'hui, il y a un système de bourse, et le système de bourse est réservé aux familles françaises puisqu'il est payé par le contribuable français et il a des contraintes relativement exigeantes sur le patrimoine, notamment immobilier. Donc aujourd'hui, ce système de bourse va permettre de réévaluer la situation de famille dont la situation de revenus aura changé considérablement avec le Covid, mais il ne permet pas aujourd'hui officiellement de revenir sur les critères d'attribution des bourses. Ce qui a été décidé, c'est qu'un autre dispositif qui existe dans nos lycées, qui sont les caisses de solidarité, qui n'étaient pas ouvertes aux familles françaises.
Voilà, une réservée
portugaise. Ces caisses de solidarité seront maintenant ouvertes aux familles françaises et le critère de patrimoine immobilier notamment sera un critère important mais indicatif. C'est-à-dire que le fait d'avoir un patrimoine immobilier un petit peu au-delà des cadres ne remet pas en cause la compréhension d'une situation d'urgence par rapport aux familles. Alors, ce sur quoi nous, les conseillers consulaires, nous insistons beaucoup, c'est que l'AEFE, qui est en gros le propriétaire du lycée français et qui opère le système d'enseignement français, nous souhaitons que l'AEFE ait beaucoup plus de moyens et puisse ouvrir, si vous voulez, un espèce de troisième front, c'est-à-dire prenne effectivement en compte des besoins beaucoup plus expressifs formés par les familles. Et donc, ça, c'est aujourd'hui là-dessus que nous nous battons, puisque la caisse de solidarité qui est financée par toutes les familles a évidemment des moyens très, très, très réduits et ne pourra pas certainement répondre à l'ensemble des besoins. besoin. Donc, on a vraiment besoin.
C'est un peu bizarre cette histoire, parce qu'il y a eu un gros effort sur l'aide sociale aux Français de l'étranger, mais cette aide sociale, elle passera pas par les caisses de solidarité. Par les systèmes de bourse uniquement. Non, ça veut dire que si vous êtes propriétaire de trois appartements qui valent un petit peu d'argent, mais que vous n'avez plus de locataires parce qu'il n'y a plus de touristes, vous êtes trop riche, mais vous n'avez plus de revenus. Et puis vos appartements, vous ne pouvez pas les vendre parce qu'en ce moment, il ne se passe pas grand-chose sur le marché de l'immobilier. Mais c'est vraiment à la française, quoi. C'est inefficace.
Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que nous, maintenant, ce qu'on demande véritablement, c'est qu'il y ait un troisième axe, si vous voulez. On ne demande pas la modification des critères de bourse normaux, mais on demande effectivement à ce qu'il y ait un plan d'urgence. Aujourd'hui, ce plan d'urgence est très sollicité. Il y a un soutien de la plupart des représentants des Français à l'étranger autour de ce plan d'urgence. Mais aujourd'hui, on est encore dans la revendication de ce plan de soutien.
Est-ce que budgétairement, l'AEFE peut abonder les caisses de solidarité ?
Si vous voulez, aujourd'hui, il faudra effectivement que l'AEFE déclare un nouveau modèle. Donc, effectivement, il y a une proposition qui a été faite pour le conseil d'administration de l'AEFE cette semaine ou début semaine prochaine, qui vise à répondre à cette demande des représentants français à l'étranger.
Parce que si on augmente de 40% le montant des bourses, mais qu'on ne modifie pas les critères, on peut l'augmenter.
Absolument,
de
400%. Il ne va rien se passer.
On va récupérer deux ou trois familles, mais rien. Quoi.
Voilà, et le fait de dire oui, la caisse de solidarité va permettre de répondre, c'est pareil, la caisse de solidarité a des moyens qui sont dans la mesure de ce que chacune des familles paye. C'est de l'ordre de 20 euros par an par famille.
Et c'est à titre volontaire.
Donc, effectivement, c'était en principe plutôt destiné aux familles non françaises. Donc, on demande vraiment à l'AEFE d'accepter de mettre en place un troisième front, puisqu'on estime que les besoins sont très importants. Et on a vraiment besoin que ces besoins soient exprimés à l'ambassade et aux conseillers consulaires, pour qu'on sache effectivement pourquoi se battre et quelle est la magnitude des nécessités. Le plan de soutien qui a été donné par l'AEFE, c'est essentiellement une avance de trésorerie sur ses propres lycées.
Vous aviez annoncé des projets d'écoles françaises qui devraient voir le jour d'ici l'été sur Lisbonne. Peut-être même vous aviez annoncé un projet sur Cascais et un autre sur Ouéras, si je ne m'abuse. Qu'en est-il exactement ?
Non, il y en avait un de l'autre côté du pont,
non ? Celui-là, il y en avait aussi un de l'autre côté du pont. Okay. Il y avait différents côté d'Almada. Projets, effectivement. Il y avait différents projets. Alors, contexte. Il y a effectivement une décision du président Macron pour augmenter l'offre d'enseignement en français à l'étranger, mais de ne pas le faire par des établissements en gestion directe, comme l'établissement de Lisbonne, de le faire en soutenant effectivement des investisseurs qui souhaitent le faire. Donc l'objectif, c'est de doubler effectivement ce type de capacité. Et puis nous, on considère que le Portugal continue à être attractif pour les familles françaises, et donc effectivement que le problème de la demande ne devrait pas se poser. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on sait que l'un des investisseurs les plus intéressants, ou les plus intéressés aussi d'ailleurs, sur ce projet, nous a signifié qu'il se donnait le temps d'attendre. Et donc effectivement, ce projet qui était censé démarrer rapidement sur la région de Cascais ne démarrera pas, en tout cas en septembre, et on n'a pas aujourd'hui de visibilité sur le développement de ce projet. En ce qui concerne le projet qui existait à Seychelles, à un certain moment, on n'a pas de nouvelles non plus. Ce dont on aperçoit, c'est que, évidemment, un investisseur réagit par rapport au risque. Aujourd'hui, le risque est important, et donc les investisseurs préfèrent attendre plutôt que de prendre des risques financiers. Et donc, on a très probablement un retard de moins un an sur les projets de mise en place. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il n'y a pas de grande préoccupation sur le remplissage de nos lycées actuels. Il n'y a pas de réduction considérable du nombre d'enfants prévus, ce qui veut dire qu'on va à nouveau avoir toute l'année prochaine cette difficulté à trouver des places pour l'ensemble des enfants qui veulent être, enfin, dont les parents souhaitent les scolariser dans nos établissements. Donc, on continue à rechercher des investisseurs, on continue à essayer d'attirer ces investisseurs. On a le soutien à nouveau de l'ambassade là-dessus. Il y a un plan éducatif qui a été construit. Effectivement, c'est également un élément de préoccupation, puisque, bien entendu, les investisseurs...
Ces investisseurs, ils doivent faire quoi ? C'est, concrètement, c'est quoi
c'est les investisseurs, ils doivent porter la totalité du projet. Ouais. Et le soutien qu'on leur apporte...
Donc c'est un bâtiment, en clair.
C'est un bâtiment, c'est une équipe enseignante, c'est...
ce serait du vrai, du 100% privé, c'est eux qui payent les enseignants, etc.
C'est du 100% privé sur lequel, effectivement, l'État apporte une labellisation, on va dire comme ça.
Ah d'accord, c'est juste un label, c'est pas un compte, c'est pas des établissements sous contrat.
Voilà, ce ne sont pas des établissements sous contrat.
Donc on va être dans des frais de scolarité qui seront comparables avec les écoles anglaises, allemandes, etc.
On pourrait permettre cependant, c'est-à-dire que le dispositif des bourses pourrait être accessible aux familles qui auront leurs enfants dans ces lycées ou dans ces écoles.
Ah, quand même.
Mais c'est en fait le seul réel soutien qui va pouvoir être apporté. Donc c'est évidemment pas une situation aussi facile qu'un investissement réalisé par l'État, complètement géré par l'État, sur le risque du contribuable. On accepte,
Puis en plus,
si vous voulez...
les Anglais, les Américains ont l'habitude de payer cher pour leurs écoles. En France, on n'a pas l'habitude de payer du tout. Ou alors des sommes relativement dérisoires. Quand on va dans le privé sous contrat en France, c'est quelques centaines d'euros par an.
Oui, et puis il faut aussi rappeler qu'on n'a pas une culture d'entreprise française qui finance d'une manière massive la présence d'expatriés dans les pays étrangers. Comme ça peut exister dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la configuration où on peut faire fonctionner des lycées français entiers sur le mécénat, si vous voulez, ou le fonctionnement d'entreprises françaises qui seraient intéressées à ce type de dispositif. Donc le Portugal a toujours eu cette difficulté de financer sur des fonds privés ce type de lycée. Et effectivement, aujourd'hui, on n'a pas de visibilité sur ces projets qui étaient initialement prévus. On a en tout cas bien compris que pour la rentrée de septembre 2020, nous n'aurons pas les capacités qu'on avait espérées.
Et quand bien même, je ne suis pas certain que ce soit la même population que ceux qui sont au lycée français. Si on vous demande de passer de 6 000 par an à 15 000 par an...
Alors, ce sera probablement pas nécessaire de passer à 15 000 par an parce que les coûts de fonctionnement d'un lycée au Portugal sont pas ceux qu'on aurait à Dubaï ou aux États-Unis. Donc, effectivement, on ne parle pas forcément. D'ailleurs, on le voit, on a l'exemple de l'excellente école Redbridge qui s'est montée à Lisbonne, qui coûte pas beaucoup plus cher finalement que la scolarité du lycée français et où les taux de satisfaction des parents sont très élevés.
Parfait.
Donc ouais, donc on est plus que sur un tente, on est sur pause là-dessus. Donc.
Absolument, absolument. Donc, c'est le problème effectivement d'être dépendant d'investisseurs privés qui, dans le doute, s'abstiennent et retardent effectivement la réalisation de leur projet.
Alors, autrement, moi je voulais parler aussi, c'est un sujet aussi qui a été évoqué, on parlait de la langue française, de son du dynamisme, comment continuer cet enseignement d'avoir des profs qui parlent le français ? Parce que j'ai l'impression qu'a priori, c'est ce qui a été évoqué, beaucoup sont vieillissants.
Ah oui, on a un problème, effectivement. On le sait tous, au Portugal, il y a eu une époque très francophone, puis après une époque anglophone. Et on est tous bien conscients que les personnes les plus âgées sont celles qui parlent le français et les personnes plus jeunes ont tendance plutôt à nous répondre en anglais. Ça, on le sait bien. Donc, aujourd'hui, il y a 1600 professeurs de français au Portugal et pour la plupart d'entre eux, ce sont des gens déjà très âgés. On a donc besoin de les accompagner, de les motiver. Il y a un travail de formation important à faire et puis il faut préparer une relève. Alors, il y a 270 000 élèves au Portugal sur à peu près 1 million qui apprennent le français. Donc, le taux peut paraître satisfaisant. C'est la deuxième, le français, c'est la deuxième langue vivante étrangère après l'anglais, devant l'espagnol, devant le mandarin, qui est maintenant de plus en plus enseigné aussi. Mais le gros problème que nous avons, c'est que la langue française aujourd'hui ne continue pas dans le lycée. C'est-à-dire que vous pouvez enseigner, vous pouvez apprendre le français jusqu'en collège, et puis après, dans le système public, eh bien, au lycée, il n'y a pas d'enseignement du français. Donc, la principale insistance de l'ambassade et de nos conseillers éducatifs, c'est effectivement de négocier avec le gouvernement portugais une continuité du français vers le lycée et un espèce de renouveau du français. Alors, la meilleure solution, ce serait qu'évidemment le Portugal décide de rendre obligatoire une deuxième langue, une langue vivante étrangère. Ce serait effectivement très utile pour un pays qui dépend beaucoup du tourisme, et la présence du tourisme francophone aujourd'hui est considérable au Portugal. Donc, on espère que le Portugal sera ouvert à cette suggestion de mettre en place une deuxième langue vivante qui serait presque clairement ou qui favoriserait très largement le français et qui permettrait un renouveau. On a une fragilité également sur les diplômes officiels de français. Vous savez, les DELF, les DALF, etc., tous ces acronymes qui correspondent finalement aux diplômes officiels de français. On a besoin d'être beaucoup plus efficace, notamment sur les certifications professionnelles ou de français des affaires, puisque le français des affaires, il est très utile, il n'y a pas de doute. La langue française est très, très importante, surtout pour un pays qui a besoin d'exporter comme le Portugal. Mais aujourd'hui, ça ne passe pas autant de fois qu'on voudrait par un système de certification. Donc voilà, il y a beaucoup de travail qui a été fait, qui permet de travailler. On a aussi essayé d'utiliser les ressources. Vous savez que là, actuellement, les professeurs travaillent beaucoup en virtuel, donc en utilisant les ordinateurs. Et donc, les professeurs de français au Portugal ont essayé d'utiliser mieux les ressources qui existent en France et qui permettent effectivement de bien fonctionner. Donc voilà, il y a beaucoup d'idées, mais on fait face, si vous voulez, à cette nécessité de renforcer la langue française au Portugal.
Alors, moi, j'ai aussi, Laurent, un autre sujet. On parlait, et tout particulièrement sur Porto, du mandat du consul honoraire de Porto qui arrive à échéance et qui, donc, ne va pas être renouvelé. Donc, comment ça va se passer pour les gens qui résident à Porto s'il n'y a plus de consul ?
Alors, premièrement, on doit remercier M. Tamet qui a effectivement assumé cette fonction. Ce que nous avions à Porto, c'était ce qu'on appelle un consul général avant que ce poste soit supprimé et que M. Tamet se propose d'assumer effectivement.
Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler ce qu'est un consul honoraire ?
Alors, un consul honoraire, c'est quelqu'un qui fait bénévolement le travail d'accompagnement d'une communauté. Alors, quand vous n'avez pas un nombre très important de personnes, c'est quelque chose qui est relativement réalisable. Quand vous avez la charge de tout le nord du Portugal, ce qui est le cas aujourd'hui du consul honoraire à Porto, c'est à mon avis contre nature. C'est-à-dire que le nord du Portugal, il y a trop de Français pour que ça puisse fonctionner correctement avec un consul honoraire. Donc, on doit d'abord remercier M. Tamet d'avoir effectivement accompagné très très bien cette communauté pendant pratiquement 5 ans. Jusqu'à l'échéance de ce mandat. Donc, on va devoir travailler maintenant. On compte beaucoup sur la députée Samantha Cazebonne, puisqu'elle avait réussi à réouvrir le consulat général d'Andorre il y a à peu près 2 ans. Donc, on espère qu'elle arrivera également à changer la vision du gouvernement et à éventuellement réouvrir le consulat général de Porto, qui avait donc été fermé en 2015 par les socialistes. Et on estime qu'effectivement, c'est une erreur d'avoir fermé ce consulat. Il y a trop de charges pour un consul honoraire. Il faut donc remettre une solution de diplomate professionnel, si vous voulez, sur la zone du nord du Portugal. Donc, on va essayer tous ensemble de travailler sur ce dossier et trouver des solutions qui seront des solutions plus satisfaisante pour notre communauté française du nord du Portugal.